Comme vous le savez, au début de l'année 2017, nous avons choisi de prendre ce thème de l'Église et nous l'avons abordé, que ce soit Xavier, Ulrich ou moi-même, sous différents angles afin de mieux comprendre l'Église comme Jésus l'a voulu, l'a institué, comme nous découvrons bien sûr dans le Nouveau Testament, comme nous le sommes déjà bien évidemment, et toute Église locale a cette représente cette Église que Jésus a créée, a implantée. Mais on veut aussi que cette Église elle soit bien adaptée à la société dans laquelle nous vivons, à la culture dans laquelle nous sommes, et puis aussi à la vision que Dieu nous a donnée, qui est celle de la multiplication. Donc dans ce sens-là, nous avons vu ensemble ce que l'Église doit être, ce qu'elle doit faire, comment elle est appelée à servir, à exister ici dans ce monde. Et puis après, il y a eu la pause de la période de Pâques, bien sûr, et puis depuis, nous avons choisi de prolonger ce thème en parlant un peu plus de ceux qui composent cette Église, des chrétiens et des chrétiennes comme vous et moi, qui faisons partie d'une église locale, comme bien d'autres, dans cette ville d'Angers, en France et dans le monde. Et nous avons choisi de nous arrêter, à partir de ce que la Bible nous dit, un peu plus sur ceux qui font partie de cette église, ceux qui sont cette église, parce que l'église, ce sont les chrétiens et les chrétiennes. Et il y a un mot qui revient très souvent dans le Nouveau Testament. Pour parler des chrétiens que nous sommes, on utilise le terme de chrétien notamment, mais le Nouveau Testament parle aussi d'enfants de Dieu, il parle des frères et des sœurs en Christ, il parle des bien-aimés. Enfin, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour qualifier ce que nous sommes, en fait, des fils et des filles du roi, ainsi de suite. Mais le terme qui revient le plus souvent dans le Nouveau Testament et particulièrement dans les Évangiles, pour nous qualifier, nous, c'est le terme « disciple ». C'est celui que l'on retrouve très souvent dans le Nouveau Testament et particulièrement, je le disais, dans les Évangiles, 244 fois, rien que dans les quatre Évangiles. C'est le mot « disciple ». C'est celui qui domine tous les autres. 53 fois dans le livre des Actes des Apôtres. On retrouve ce terme soit au singulier, soit au pluriel. Beaucoup moins dans les épîtres, dans la suite du Nouveau Testament. Une dizaine de fois seulement. Vous allez dire pourquoi ? Est-ce qu'il y a moins de disciples ? Non, c'est parce qu'il y a plus de termes pour les définir, justement. Les apôtres utilisent d'autres termes, j'en ai cité quelques-uns. Donc, rachetés, bien-aimés, frères et sœurs. Ces termes-là qui sont utilisés sont là aussi pour montrer des aspects, bien évidemment, de notre position dans notre relation avec Christ et dans le cadre de l'Église. Mais le titre qui revient et le nom qui revient le plus souvent dans le Nouveau Testament ou dans les Évangiles, c'est le mot « disciple » pour une raison simple. C'est qu'il y avait cette tradition en Israël des écoles rabbiniques. Les écoles rabbiniques avaient à leur tête un maître, un rabbin, un rabbi. Et vous en connaissez un certainement par cœur, c'est Rabbi Jacob, vous l'avez tous rencontré en regardant le film. Et donc à la tête de cette école, il y a un rabbin. Et le rabbin a des disciples autour de lui, il rassemble des disciples autour de lui, des disciples hommes à l'époque de Jésus. Il y avait dans les écoles rabbiniques, à ce niveau-là, bien sûr, avec un maître, il n'y avait que des hommes. La particularité avec Jésus, c'est que Jésus a intégré aussi des femmes parmi ses disciples. Et c'était des hommes qui étaient appelés, bien sûr, à suivre leur maître et à regarder leur maître vivre. Ils étaient censés, à ce moment-là, déjà connaître la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, par cœur. Vous voyez ? C'était d'abord ça. Et ensuite, Ils étaient appelés à suivre un maître qu'ils choisissaient, et ce maître, ils devaient l'écouter dans ses enseignements, les interprétations qu'il faisait de la loi et des prophètes. Ils connaissaient déjà cette loi, mais le maître interprétait. Et ils étaient appelés, bien sûr, à mettre en pratique cette parole de Dieu dans leur vie quotidienne en regardant le maître faire. C'est pour ça qu'ils le suivaient partout, comme Xavier l'a dit, même jusqu'aux toilettes, pour voir partout comment il faisait les choses, en fait, comment il appliquait la loi. C'est ce modèle-là qui a été repris par Jésus lorsqu'il a rassemblé autour de lui des hommes et des femmes pour le suivre et pour être ses disciples. Et nous allons encore parler, bien sûr, du disciple que les uns et les autres nous sommes, ou des disciples que nous sommes, après avoir écouté, bien sûr, ce que Xavier a pu dire sur ce thème, ce que Ulrich aussi a pu dire, et je rappelle les points et ce qu'ils ont mis en avant sur ce thème. Par exemple, Xavier a abordé le disciple aujourd'hui. Le disciple aujourd'hui, il est là pour répondre à un appel. Hein, ça revient encore, ce thème de l'appel. Le disciple est attaché, non, c'est pas à l'appel, c'est à la parole. Il est attaché à la parole, et le disciple met en pratique la parole. D'accord ? Met en pratique la parole. Donc le disciple est attaché à la parole, et le disciple met en pratique la parole. C'est ce que Xavier a développé quand il a pris pour la première fois donc ce thème du disciple. Ensuite, Ulrich a pris comme thème tel maître, tel disciple. On est appelé, bien sûr, en tant que disciple, à ressembler au maître. Et il a décliné ça de la manière suivante. Le disciple renonce à lui-même. C'est ce que Jésus dira. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Le disciple aussi est engagé dans un processus de croissance. On est appelé à grandir. Bien sûr, dans ce rôle, dans cette fonction, dans cette relation avec Christ. Et le disciple ressemble à son maître. Ça, c'est ce que il a déjà été partagé sur ce thème du disciple. Et ce matin, je voudrais que nous intéressions plus particulièrement sur la mission que Jésus a confiée ou confie à ses disciples. Il n'y a pas de disciple sans une mission, en fait. On n'est pas disciple, on ne peut pas être disciple sans être en même temps un missionnaire, j'ai envie de dire. On est tous des missionnaires, malheureusement, dans l'utilisation de ce terme. Quand on parle d'un missionnaire, on parle d'un spécialiste, de quelqu'un qui a entendu un appel particulier pour aller dans un pays étranger pour apporter l'évangile dans ce pays. Et bien évidemment, ça peut être un missionnaire, mais le terme missionnaire ne peut pas se limiter uniquement à ceux qui accomplissent cette mission de cette manière-là. Nous avons, nous, ici, dans cette église, nous avons deux missionnaires que nous soutenons, que nous accompagnons. Même il y a un groupe de cette église qui va aller les rejoindre dans leur pays dans quelques jours. Et c'est intéressant parce que, en général, les missionnaires, quand ils partent dans un pays pour accomplir ou répondre à l'appel qu'ils ont reçu, ils vont pour proclamer l'évangile. Essentiellement, c'est... Alors, bien sûr, le missionnaire type... qu'on connaît bien, c'est Reinhard Bonnke, par exemple, en Afrique. Lui, il a pu parler à des millions de personnes à la fois et apporter le message de l'Évangile, proclamer l'Évangile à des quantités de gens en même temps. Bien évidemment, sans être à cette échelle-là, il y a beaucoup de missionnaires, c'est ce qu'ils font. Parce qu'ils ont la liberté de le faire dans le pays où ils sont. Mais il y a des pays, ils ne peuvent pas le faire. Et c'est le cas de nos missionnaires ici. Ils ne peuvent pas le faire dans le pays où ils sont. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont une couverture, c'est-à-dire un autre métier, une fonction professionnelle dans ce pays, et puis ils se font dans le pays avec la population, et là, ils témoignent. C'est là qu'ils deviennent des missionnaires et qu'ils sont des missionnaires. En fait, c'est intéressant parce que ils font là-bas ce que nous sommes tous appelés à faire ici, vous voyez. On n'est pas tous appelés à proclamer l'Évangile, comme je le fais ici, d'une estrade à un groupe de personnes, mais on est tous appelés à être des missionnaires là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous habitons, en fait. Et eux le font là-bas, en fait, dans un endroit particulier. Mais nous sommes tous appelés à le faire là où nous vivons. Et ce que nous allons voir ensemble ce matin, c'est que un disciple devient de fait un missionnaire. Il est appelé automatiquement. Alors il y a des appels particuliers pour aller dans un pays particulier, pour une fonction particulière, ça oui, bien évidemment. Dieu le fait, moi j'ai eu un appel particulier pour ici, pour apporter l'évangile dans ce pays, dans cette région, dans cette ville. Il peut y avoir cela, mais d'une manière générale, lorsque nous devenons disciples, nous sommes tous appelés. Et nous sommes tous appelés à être des missionnaires. Et dans l'évangile de Luc, nous voyons que, à partir dans les chapitres 9 et 10, que Jésus va rassembler ses disciples pour les envoyer en mission. Chapitre 9 et 10 de Luc sont deux chapitres intéressants parce que là, on bascule d'une première partie de l'évangile de Luc à une deuxième partie. La première partie jusqu'au chapitre 9, c'est la partie et la période pendant laquelle Jésus va révéler à ceux qui sont déjà avec lui, ceux qui sont ses disciples, ceux qui l'ont rejoint, il va révéler qui il est. Il va révéler son identité. Et cette partie-là se termine avec la question que Jésus va poser à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et là, ils sont appelés à répondre. Et Pierre va bien répondre. Il va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est au chapitre 9. Et au chapitre 10, Jésus va montrer à ses disciples comment maintenant qu'ils savent qui il est, comment ils sont appelés à vivre maintenant. Et à vivre leur foi, à vivre comme disciples de Christ. Et ça commence par un envoi, une mission que Jésus leur confie. Et c'est ce que nous avons au chapitre 10, et je vais vous lire les quatre premiers versets du chapitre 10. Lorsque Luc nous dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Là, vous avez toujours envie d'y aller? Il les prévient, là. Ça va pas être facile, forcément. Mais Jésus les envoie, en fait. Pour Jésus, un disciple, c'est d'abord un missionnaire. C'est quelqu'un que lui envoie. Il confie à chaque disciple un message qu'il est chargé de partager autour de lui. Et c'est ce que nous allons voir ce matin ensemble. Et le plan sera le suivant ce matin. Nous allons voir la mission du disciple. Nous allons voir le message du disciple. Et nous terminerons avec la motivation du disciple. C'est la loi, je l'appelle ça la loi des trois M. Mission, message, motivation. Facile à retenir. On va suivre ensemble ce plan maintenant. D'abord, la mission du disciple. Il commence, il nous est dit dans Luc, à partir du chapitre 10, il rassemble ceux qui sont là, ses disciples, et il les envoie. On a un peu plus de précision au chapitre 9, puisque au chapitre 9, verset, dans les premiers versets du chapitre 9, Jésus va assembler avec lui, alors cette fois-ci, c'est pas seulement les disciples au sens large. Ce sont parmi ses disciples les apôtres, les 12, ceux qui vont être envoyés pour une mission particulière. Ayant assemblé les 12, Jésus leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies, et les envoya pour prêcher le royaume de Dieu. L'ordre de mission, là, il est précis. Il consiste à proclamer la parole, à chasser les démons, à libérer ceux qui sont dans les chaînes et à guérir les malades, à restaurer les corps. Ça, c'est l'ordre de mission que Jésus va leur donner. On pourrait penser, bien sûr, que... Alors là, Jésus le fait pour des spécialistes. font partie du clergé, ces 12. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire cela. Mais justement, au chapitre 10, Jésus élargit. Il disait, mais non, ça ne va pas être seulement les 12. Ils vont faire cela, bien évidemment, mais d'autres vont faire cela aussi. Avec, bien évidemment, le même ordre de mission, qui est aussi d'apporter l'évangile, de chasser les démons et de guérir les malades. Et vous vous souvenez que quand ils vont revenir, les 70, c'est un peu plus loin dans le chapitre 10, on s'arrêtera là-dessus tout à l'heure, les disciples vont revenir en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis ». Donc il s'est passé des choses et c'est exactement ce que Jésus avait demandé à ses 12 apôtres de faire. C'est aussi la même chose pour les disciples au sens large. Donc il n'y a pas, dans l'esprit de Jésus, il peut y avoir parmi ses disciples certains qui ont une mission particulière, comme c'était le cas des 12. Mais la mission générale, elle est la même pour tous les disciples en fait. C'est de proclamer la parole, c'est de chasser les démons, et c'est même de guérir en fait. On peut prier pour les autres, on n'est pas obligé d'être responsable d'église pour prier pour les autres. On peut prier pour les autres, et ils peuvent être guéris bien sûr. On peut chasser les démons et ainsi des hommes et des femmes peuvent être délivrés. Et Jésus va prendre, et si on avait que le chapitre 9, on pourrait dire oui, ce sont des spécialistes, il y a qu'eux qui peuvent faire cela. Alors bien sûr, il y a une particularité dans leur mission. Ces apôtres ont été là pour établir les églises. Plus tard, on le voit dans le livre des apôtres, ils vont être les responsables d'église, les conducteurs d'église. Mais la mission qui consiste à proclamer l'évangile, à être des témoins, à être des missionnaires, ça c'est une mission au sens large. Et la preuve, c'est que quand il est parlé de ces 70, ça peut faire référence bien sûr à ce qu'on appelle la table des peuples ou la table des nations, la généalogie que l'on trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 10. Et là, il est question de 70 noms qui représentent 70 peuples, 70 nations, donc la terre entière en fait. Donc là, le chiffre était probablement 70 au sens littéral, mais il peut avoir aussi un sens symbolique et aussi représenter la masse des disciples qui sont appelés à être ces missionnaires, qui sont envoyés par Christ. Tous les disciples, donc, ont cette mission. Et ça va être renforcé, bien évidemment, vous le savez, par Jésus, lorsqu'il va, après sa résurrection et avant son ascension, lorsqu'il va rassembler ses disciples, et pas seulement les 12, mais il va rassembler tous ses disciples. Ils étaient plusieurs centaines à Jérusalem à ce moment-là. Et puis, il va leur dire, maintenant, vous restez à Jérusalem et vous attendez que le Saint-Esprit vous soit donné. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Vous aurez la puissance pour rendre ce témoignage, pour être ces missionnaires, justement. Il y a un principe, en fait, ça répond à un principe biblique que nous trouvons du début jusqu'à la fin de la Bible. C'est que lorsque Dieu appelle, il envoie en même temps. S'il appelle quelqu'un à lui, il va l'envoyer vers les autres, en fait. Ça, c'est ce que nous voyons avec Abraham, dès le départ. Dieu va appeler Abraham et il va dire, voilà, maintenant je te bénirai, mais sache une chose, c'est que si je te bénis, c'est pour que tu sois une bénédiction pour les autres, en fait. Ça va être la même chose pour Moïse. Moïse va être appelé au buisson ardent, mais dès qu'il va être appelé, Dieu va l'appeler à lui en même temps, Dieu va l'envoyer vers Pharaon pour libérer le peuple. La même chose avec Ésaïe, lorsqu'il nous a raconté, il raconte son expérience, comment Dieu va purifier son cœur, comment Dieu va le changer, le transformer, une expérience extraordinaire qu'il va vivre. Et une fois qu'il va recevoir, être purifié, être lavé, Dieu en même temps va l'envoyer, en fait, pour être son prophète. Il va l'envoyer vers les autres. La même chose pour Pierre, quand Pierre va se rendre compte, au travers du miracle, la multiplication de la pêche miraculeuse, pardon. Et à ce moment-là, Jésus va l'appeler, il va dire « maintenant tu seras un pêcheur d'hommes ». C'est le principe biblique général en fait. À partir du moment où Dieu nous a appelés à lui, il nous appelle en même temps vers les autres. À partir du moment où il nous donne quelque chose, c'est pas pour le garder pour nous-mêmes, c'est pour le redonner aux autres en fait. C'est ce principe biblique général. L'appel, lorsque Dieu a appelé quelqu'un à lui, c'est pas uniquement pour lui en fait. C'est toujours pour les autres. Et ça doit être l'ADN du disciple, en fait. Nous sommes tous des envoyés. Nous sommes tous des missionnaires. Alors, on n'a pas tous, bien sûr, l'appel pour aller dans un pays particulier, par exemple, ou d'être des prédicateurs de l'Évangile ou des évangélistes, comme d'autres le sont, mais là où nous sommes appelés à être ces missionnaires. C'est dans la nature même du salut que Dieu nous a donné, en fait, en Christ. C'est qu'en même temps, il nous a rendus capables de nous tourner vers les autres. Ce n'est pas le salut par les œuvres. Lorsque notre théologie, pour ceux pour qui ils sont nombreux, la théologie du salut, c'est celle d'un salut qui est le résultat d'œuvres que nous avons faites, lorsqu'on est dans cette théologie-là, on est obsédé par soi-même, vous savez. Forcément, on pense, on se demande si on a été à la hauteur, on se demande si on en a fait suffisamment. On est obsédé par cela. On n'est pas obsédé par les autres, on est obsédé par soi-même. Cette théologie-là, elle tourne pas les gens vers les autres, elle tourne les gens vers eux-mêmes, en fait. Alors que la théologie de la grâce, le salut par la grâce, nous libère de nous-mêmes. On n'a plus besoin de faire les choses pour être accepté par Dieu, comme on le verra tout à l'heure, pour avoir un nom. Le nom, on l'a déjà, en fait. Et donc, on peut aller vers les autres. Vous vous souvenez de l'expérience de la Samaritaine? Vous connaissez cette histoire? Comment cette femme, qui était mise de côté dans son village à cause de sa vie, qui n'était pas tout à fait clean, qui avait des choses qui n'allaient pas, et elle va rencontrer Jésus, elle va découvrir dans cette conversation avec Jésus que Jésus est le Messie, et qu'il est le Sauveur, et elle va recevoir sa grâce. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Immédiatement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner chez elle, elle va fermer sa porte, elle voudra parler à personne, elle voudra garder simplement cela pour elle en disant « Seigneur, merci pour ce beau cadeau que tu m'as fait, maintenant je suis là une rachetée, je suis sauvée en Christ ». Non, 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 non. Elle va le dire aux autres. Elle pourra pas. Et c'est même pas Jésus qui lui a dit. Jésus lui a pas dit « Écoute, maintenant, tu as reçu ça, je t'envoie. Hein. Là, t'as une mission ». Attention, maintenant, tu as quelque chose à faire. Il n'aurait même pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que c'est dans l'ADN même de l'expérience du salut qu'on a faite. À partir du moment où on fait cette expérience et on reçoit la grâce de Dieu, on ne peut pas faire autrement que de partager, en fait. On ne devrait même pas avoir besoin d'être envoyé. On dit, mais on est déjà envoyé. À partir du moment où on a reçu cela, en fait. Et ça rejoint cette parole de Paul dans Éphésiens, lorsqu'il dira, si tu peux prendre le texte d'Éphésiens, il n'y en a pas de texte, Éphésiens? Si, je crois qu'il y en a un. Sinon, je vais vous le dire. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Oui, Éphésiens 2:10. Il n'y a pas de texte? Ok. Je pensais qu'il y avait un texte. Quelqu'un l'a volé, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Donc, dans Éphésiens 2:10, Paul dit que vous êtes l'ouvrage de Dieu. Hein, vous êtes l'œuvre, l'ouvrage de Dieu pour... du coup, j'ai perdu le fil. Normalement, je le connais par cœur, mais là, c'est l'émotion. Vous savez, je suis très émotif. Car nous sommes son ouvrage, c'est le début que j'avais plus. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous connaissez la suite? Afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est qui? C'est pour nous? Non, c'est pour les autres.
Bien sûr.
C'est pour les autres. Nous sommes appelés à aller vers les autres. Si nous sommes l'ouvrage, littéralement le chef-d'œuvre de Dieu, l'œuvre d'art. Vous pensez pas vous êtes une œuvre d'art? C'est pas ce qu'on dit de vous, hein. Peut-être vous allez dire non, mais vous pouvez le dire. C'est ce que la Bible dit de nous. Nous sommes cette œuvre d'art, un chef-d'œuvre de Dieu en fait. Ce que Dieu a fait en nous, c'est un chef-d'œuvre. Alors il est peut-être pas tout à fait terminé, vous voyez. L'artiste, il a encore certainement des rectifications à faire et des choses à mettre en place, mais c'est une œuvre d'art. C'est le terme qui est utilisé par Paul lorsqu'il dit à ces chrétiens, rappelant le salut qu'ils ont reçu en Christ, car vous êtes son ouvrage, vous avez été créé, vous voyez, comme un créateur, un artiste qui crée quelque chose entièrement nouveau. pour les autres, mais pour les autres aussi, pour ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes donc tous des missionnaires, d'accord? Les missionnaires, levez la main. Ouais. Et ceux qui ne lèvent pas la main, ils ont tort. On est une église de missionnaires. On dit ici, on a deux missionnaires. On est content parce qu'on a deux missionnaires. Non, il y en a 400 missionnaires. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, il y en a qui ont une mission spéciale, bien évidemment. Un territoire particulier, un pays. Oui, ça en fait partie. Mais sinon, nous sommes tous ces missionnaires. Si on a une mission, et nous sommes tous des missionnaires, nous avons aussi un message. Et on va s'arrêter quelques instants sur le message que nous sommes appelés à partager. Au verset 10, Jésus leur parlera, au verset 8, pardon, il leur dira que dans quelle ville que vous entriez, où l'on recevra, vous mangez. Ah oui, ben c'est là. Ah, je l'avais mis ce texte-là. Et il leur dira, guérissez les malades qui s'y trouveront. Vous voyez, c'est au 70 qui dit cela. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Le message doit être annoncé. Alors, bien évidemment, lorsque nous sommes appelés à partager ce message, nous devons respecter aussi les lois du pays dans lequel nous faisons ce travail. Et on l'a vu la semaine dernière, notamment, avec Thierry Le Gall, vous vous souvenez, qui a ce ministère particulier auprès des parlementaires, et nous a parlé de cette campagne qui a été mise en place par le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, qui s'appelle « Libre de le dire », que ce soit à l'université, au travail, sur la place publique, etc. Bien évidemment, on doit tenir compte des lois, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais nous sommes dans un pays où nous avons quand même de grandes libertés. Quand on voit d'autres, là où sont nos deux missionnaires, justement, c'est pas la même chose. Et donc, nous avons ce cadre-là à respecter, bien évidemment. Mais dans ce cadre, le cadre des lois de la République française, puisqu'on est en France, eh bien, nous sommes appelés à porter cette parole. Nous sommes appelés à parler du royaume de Dieu. Et ce message, il a un nom dans le Nouveau Testament. Et ce nom, c'est bonne nouvelle, c'est évangile. Ce mot-là, on le retrouve dans le Nouveau Testament 133 fois, sous des formes différentes, 133 fois. C'est le mot qui a été choisi pour parler de ce message. Et c'est pas par hasard que les premiers chrétiens ont choisi ce terme-là pour qualifier le message de Jésus que nous sommes appelez-nous à recevoir d'abord et que nous sommes appelés à partager ensuite. Quand ils l'ont appelé le message de la bonne nouvelle. Ce terme-là, chez les Grecs, il parle d'un message qui est envoyé à un pays entier à l'occasion d'un événement historique qui va impacter tout le pays, en fait. Nous, par exemple, on a vécu un événement national la semaine dernière avec un nouveau président. Eh bien, ça, c'est une nouvelle. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, mais c'est une nouvelle. Et cette nouvelle, elle a été transmise dans le monde entier, en fait. Mais elle intéressait particulièrement les Français, parce qu'eux sont impactés par l'élection de ce nouveau président, l'investiture de ce nouveau président. Et dans l'Antiquité, lorsque ce terme était utilisé chez les Grecs, notamment, c'était pour annoncer un événement majeur, historique, qui s'était produit. Ça pouvait être, là, par exemple, la naissance de César Auguste. C'est le terme qui est utilisé. Voici l'évangile de la venue de César Auguste. Nous, on aurait du mal à le dire les choses comme ça, mais à l'époque, c'était ça. C'était simplement pour dire, voilà la bonne nouvelle. La nouvelle importante que tout le monde doit connaître. C'est l'annonce d'une nouvelle qui concerne tout un empire, là. Il y en a qui pratiquent le marathon ici. Il y en a qui ont fait le marathon. Bon, semi-marathonien, alors. Il y en a qui ont fait la moitié. Ouais, il y en a. Ah, il y a des sportifs, là, parmi nous. Ben, vous vous souvenez, et vous savez probablement d'où vient ce terme, marathon. Il fait référence à une bataille, la bataille de Marathon, en 490 avant Jésus-Christ. Les Perses, avec les Mèdes, mais c'était surtout les Perses, ont attaqué les Grecs. Et ils étaient environ 20 000, les Perses. Et les Grecs, ils étaient moitié moins. Et normalement, c'est les Perses qui auraient dû gagner. D'autant plus qu'ils avaient, parmi eux ils avaient une troupe d'élite, à peu près de 1000 hommes, qui étaient des guerriers aguerris, et qui s'appelaient les envahisseurs. Donc normalement, avec deux fois plus de soldats, avec une troupe d'élite, les Grecs, qui étaient à peine formés, n'avaient aucune chance. Et puis là, contre toute attente, ce sont les Grecs qui vont remporter cette bataille. Ça va être un événement majeur, bien évidemment. Tout le monde était dans l'attente. À Athènes, on attendait, on voulait voir. C'était à 40 kilomètres d'Athènes que ça s'est passé. Et bien évidemment, lorsque la victoire a été remportée par les Grecs, il fallait l'annoncer à Athènes. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien. Donc, il y en a un qui a couru. Hein. Il a couru cette distance, Philippides, pour aller annoncer le plus vite possible la bonne nouvelle, l'évangile, aux Athéniens. Donc il a couru, mais seulement il n'avait pas été suffisamment entraîné. Il n'a pas eu un bon coach. Donc il a fait ses 40 kilomètres, et puis quand il est arrivé, il a juste eu le temps de dire, alors c'est la légende qui dit ça, bien sûr, après tout cela. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et donc, quand il est arrivé à Athènes, il a juste le temps de dire « On a gagné, on a gagné !» Boum, il est mort. Le pauvre. C'est ce que la légende dit. Mais c'est tout à fait possible. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, on a gagné. Et Jésus nous dit « Vous avez une nouvelle à annoncer. Vous avez un message à annoncer. Vous êtes là pour annoncer une victoire. Contre toute attente. » Les disciples, pendant un temps, ils ont pensé qu'elle était perdue, cette bataille. Quand ils se sont retrouvés devant la croix, Jésus crucifié, mourant, meurt, enterré, enseveli, c'était fini pour eux. Ils rentraient chez eux, les deux disciples d'Emmaüs étaient en route. C'était fini pour eux. Ils étaient désespérés. Puis voilà qu'il ressuscite. Et Jésus leur dit, maintenant, vous avez un message à annoncer. Vous avez une nouvelle à annoncer. Vous ne pouvez pas rester sans annoncer cette nouvelle. Annoncez cette parole à toute la création, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un événement historique, majeur dans l'histoire de l'humanité, qui renverse le cours de l'humanité. Qui fait qu'aussi notre histoire personnelle peut être transformée, bouleversée. Elle l'a été les uns et les autres par cette nouvelle. On l'a entendue un jour. Pour certains, il n'y a pas longtemps, pour d'autres, il y a très longtemps. Mais on se souvient de ce jour-là. On a entendu cette nouvelle. Et cette nouvelle nous a bouleversés. Alors Jésus dit, vous allez la partager maintenant, cette nouvelle. L'évangile, c'est pas d'abord de dire aux autres comment ils doivent vivre pour plaire à Dieu. Trop souvent, les gens, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que l'évangile, c'est une suite de commandements et de conseils pour de savoir vivre, pour savoir comment vivre pour Dieu, etc. Non, l'Évangile, c'est pas d'abord ça. Le cœur même de l'Évangile, c'est d'annoncer non pas une œuvre que nous sommes appelés à faire, c'est d'annoncer une œuvre qui a été faite pour nous. Une œuvre qui a été faite. L'œuvre, elle a été accomplie. C'est Christ qui a accompli cette histoire, cette œuvre. Alors si on prend au sérieux cet événement, on va faire comme ce grec, hein, Phidippides, on va courir le plus vite possible pour annoncer cette nouvelle. Il faut que les autres le sachent. Vous savez, si vous étiez atteint d'une maladie grave et que vous alliez, je ne sais pas, quelque part dans un pays et on vous dit, mais on a trouvé un médicament pour cette maladie. Et vous prenez ce médicament et vous êtes guéri. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez revenir chez vous si vous croisez quelqu'un qui a la même maladie? Vous allez vous taire? Vous allez le dire, bien sûr. Vous allez faire en sorte que les autres le sachent. C'est la même chose avec l'Évangile. Donc, nous avons une mission, et notre mission, c'est d'annoncer cette victoire. Et on peut le faire de différentes manières. On n'est pas obligé d'être là, sur une estrade, pour apporter l'Évangile. On peut le faire chez soi, on peut le faire sur son lieu de travail, dans le cadre de la pause. Pas pendant qu'on travaille, bien sûr. Mais en respectant les lois, mais on peut partager. On peut dire ce qui s'est passé. Mais si nous faisons cela, en tant que disciples, nous devons veiller à avoir les bonnes motivations pour le faire. Et là, on va s'y arrêter un petit peu quand même. Quelle doit être notre motivation lorsque nous partageons l'Évangile? Lorsque nous disons aux autres ce que Christ a fait, l'œuvre qu'il a accomplie. Quel genre de disciple missionnaire Jésus désire-t-il en fait? Avec quelle motivation? Nous allons lire ce texte, le retour des disciples des 70, au verset 17 de Luc 10. Les 70 revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom !» Et il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, et là, il les avertit. Sachez bien une chose, parce qu'ils étaient en train de se réjouir, mais Jésus leur dit, « Non. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Vous avez dit amen? On va voir pourquoi. On va voir si vous dites encore amen après. Faites attention, vous êtes avancés là. Hein. Jésus constate qu'il y a un problème avec ses disciples. Et le problème, il n'est pas par rapport à ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait. Il y a des démons qui ont été chassés, il y a des malades qui ont été guéris. Il y a des quantités de gens qui ont entendu l'Évangile et qui sont devenus des disciples. Mais Jésus a un problème avec la manière dont ils l'ont fait. Jésus n'approuve pas leur motivation dans l'accomplissement de leur mission. Jésus repère là une mauvaise motivation. Il leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Quel est le problème? Les disciples, dans cette mission, avaient croisé des possédés, bien sûr, des démoniaques, des gens avec des esprits impurs. Ils avaient prié, ils avaient chassé les démons, et ces gens avaient été délivrés, comme Jésus l'a fait, vous vous souvenez, avec le gadarénien, par exemple, qui avait une légion de démons, la Bible nous dit. Et Jésus l'a fait avec d'autres, et eux ont fait la même chose. Alors, bien sûr, il y a une joie naturelle quand on voit ce genre de délivrance. Bien sûr, ils avaient cette joie naturelle. Mais il y avait autre chose. Ils n'étaient pas heureux et joyeux et satisfaits d'avoir vu des gens délivrés. Non. Ils étaient surtout satisfaits de l'avoir fait eux-mêmes. Seigneur, si tu peux remettre le texte. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. T'as vu comment on est fort là? Ils nous sont soumis. Voilà ce que nous sommes devenus. Et pour mieux comprendre ce que Jésus a voulu dire, il faut regarder dans le texte toujours. Lorsque Jésus leur dit « ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Aujourd'hui, on peut trouver nos noms facilement n'importe où, vous voyez ce que je veux dire? Même dans un bottin téléphonique. Il n'y a rien de particulier d'avoir son nom écrit quelque part. Non? Depuis l'imprimerie, pouf! Et avec Internet. Mais à l'époque de Jésus, d'avoir votre nom écrit quelque part, c'était exceptionnel. C'était rare. Il fallait être quelqu'un. Dans l'Empire romain, il y avait dans les villes, il y avait des livres pour écrire le nom des citoyens romains, mais uniquement des citoyens romains. Les esclaves, leur nom n'était pas écrit. Et les autres, leur nom n'était pas écrit. C'était un privilège d'avoir son nom qui était écrit, quelque part. Il y avait une minorité de gens qui avaient leur nom. Et Jésus leur dit, je ne veux pas que vous vous réjouissiez de ce que les esprits vous sont soumis. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient là en disant cela, les disciples? Ils disaient, tu sais Seigneur, parce qu'on est capable de délivrer les démons, on obtient un nom. On s'est fait un nom. Maintenant, les gens, ils savent qui on est. Ils nous connaissent parce qu'ils ont vu la force que l'on a et la puissance que l'on a pour délivrer. On est passé dans des villages et les gens, là, ont vu qui on était et on a obtenu un nom. Et Jésus leur dit, non, c'est pas ça. Je veux pas vous chercher à obtenir un nom comme ça. Je vous ai déjà donné un nom. J'ai déjà écrit votre nom, en fait. Vous voyez ce que les disciples étaient en train de faire? Ils étaient en train de faire exactement ce que la génération a fait avec l'événement de la tour de Babel. Exactement la même chose. Qu'est-ce qui nous est dit? Si le texte peut s'afficher. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom. Nous allons aller, nous allons construire, nous allons bâtir, et au travers de cela, nous allons nous faire un nom, une réputation. C'est ce que Dieu n'a pas aimé. Et Jésus a vu que les disciples, ils étaient en train de faire exactement la même chose. Ils se servaient de la puissance qu'ils avaient reçue, du message que Jésus leur avait donné, de la mission qu'il leur avait donnée, pour se faire un nom. Et Jésus dit non, vous n'avez pas besoin de vous faire un nom, parce que moi je vous ai déjà écrit, et votre nom est déjà écrit. Vous savez, quand il fait l'allusion à Satan, quand il parle des démons qu'ils ont délivrés, Jésus a dit cette parole extraordinaire, j'ai vu Satan tomber du ciel, faisant référence à la chute de Satan. Cet être qui était certainement le plus bel... La plus belle création que Dieu ait faite s'est détournée de Dieu, s'est révoltée contre Dieu par orgueil, et il a été projeté, jeté. Cette allusion, Jésus aussi l'a fait par rapport à ses disciples. Il dit, mais si vous voulez vous servir du message, de la mission que je vous ai donnée pour vous faire un nom, vous allez tomber dans le même piège que Satan. Et vous allez terriblement chuter. Jésus a vu que c'était grave, en fait. C'est pour ça qu'il leur dit, attention, danger, danger, les voyants sont au rouge, là. Quand il parle, il dit, attention, danger. Et particulièrement devant le succès, bien sûr. Ils avaient des résultats, ils avaient des délivrances. Ils ont dû certainement dire à Jésus dans quelles circonstances tel démoniaque avait été délivré, ce qui s'était passé à ce moment-là, comment cet homme était revenu avec son bon sens, comme le gadarénien lorsqu'il a été libéré par Jésus. Ils ont pu raconter tout ce genre d'histoire. Là, on a un résumé, bien sûr. Mais devant le succès, Jésus, en les entendant, on a remarqué qu'ils étaient en train de se dire, « Tu vois, Seigneur, qui on est, hein. T'as vu l'estime de nous-mêmes là qu'on a maintenant ? » Ça nous a fait du bien, à notre moi, ça. Hein. Là, on a une belle image maintenant. Hein. Oh, merci Jésus, hein. Tu ne peux pas encore nous envoyer là. Parce qu'on en aura encore une meilleure. Et Jésus leur dit, attention, attention. Vous avez la mauvaise motivation. Ce n'est pas celle-ci que vous devez avoir. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vous savez, l'idée qu'ils avaient à cette époque, c'était le jour du jugement dernier. Dieu allait ouvrir un livre. Et voir toutes les bonnes œuvres que chacun avait faites. Pour inscrire leur nom à la fin. Selon les œuvres qu'ils avaient faites. Si elles n'étaient pas assez nombreuses, assez bonnes, leur nom n'était pas écrit. Si elles étaient suffisamment nombreuses, si elles étaient bonnes, alors ils pouvaient avoir leur nom écrit. C'est la pensée qu'il y avait, c'était la croyance à l'époque. Et Jésus leur dit, je vous annonce quelque chose. Ce n'est pas la peine d'attendre le jugement dernier pour savoir si votre nom va être écrit en fonction de ce que vous aurez fait. Moi, je vous annonce déjà que j'ai écrit votre nom sur le livre de vie. Que votre nom est déjà inscrit dans les cieux. Que vous êtes déjà accepté. Ça change tout. Vous savez que la semaine dernière, à cette même heure, il y avait l'investiture d'un nouveau président pour la France. Il y a quelqu'un qui était là ? Non, il n'était pas invité ? Oh. Ben moi non plus. Ça donnait ça, vous voyez. Les ors de la République, dans le palais de l'Élysée. Et vous avez pas mal de monde, Mais tous ces gens qui étaient là, comment ils se sont retrouvés là ? Parce qu'ils ont eu une invitation. Une invitation personnelle, une invitation nominative, bien évidemment. Vous et moi, sans cette invitation, on ne pouvait pas entrer. Ce n'était pas la peine d'essayer même. Parce qu'on vérifie à l'entrée. Imaginez que vous ayez été invité pour ce jour-là. Vous n'auriez pas refusé, hein, je pense. Hein ? On y sera allé. Hein ? Vous arrivez, il y a l'huissier qui est là, et qui dit, il a toute une liste, et il dit, votre nom ? Et là, vous dites, oh là là, j'espère qu'il est écrit le mien là. Sinon, je suis mal. J'espère que la secrétaire n'a pas fait une erreur. Vous voyez, il y a peut-être une petite tension qui va arriver. L'espace de une ou deux secondes, l'espace de vérifier, de dire, ah ben oui, vous êtes là, oui, ben entrez, oh là là. Faites une entrée royale, là, vous êtes. Là, vous vous rendez compte. Vous êtes content, vous êtes fier, vous faites partie de ces quelques invités, il y en a quelques centaines seulement, qui ont été invités. Alors, ça nous est pas arrivé en allant au palais Élysée, mais j'imagine que ça nous est arrivé dans d'autres circonstances, où il y avait une invitation nominative. On devait entrer quelque part, mais en présentant, là, notre carton d'invitation, notre pièce d'identité. Et automatiquement, il y a une vérification, il y a une petite tension. Là, on se dit, j'espère qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Et on est soulagé quand la personne dit, ah oui, bien sûr, vous êtes invité, mais prenez place, c'est pour vous, etc. Alors, on se sent bien, là, C'est exactement ce que Jésus fait. Il dit, je vous ai marqué sur la liste. Vous pouvez entrer. Et quand c'est Jésus qui le dit, il n'y a pas besoin d'avoir un petit doute, vous voyez. Il n'y a pas d'erreur de secrétaire, là, il n'y a rien. Si c'est écrit, c'est écrit. Et on peut entrer. Et on peut se réjouir. Et il nous dit, mais ça veut dire, quand on a notre nom écrit, ça veut dire que tout ce qu'on a désiré le plus dans notre vie, une vie en abondance, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la relation avec Dieu, tout ce qu'on a, la paix, la joie, tout ce qu'on a voulu le plus dans notre vie, ça y est, c'est pour nous. Notre nom est écrit. Et c'est ça qui doit être notre motivation. C'est-à-dire, comment est-ce possible? On va revenir sur un épisode que vous connaissez certainement. Pour terminer, lorsque Moïse a été sur la montagne pour recevoir les commandements de Dieu, et que pendant le temps qu'il était là-haut, le peuple a fait un peu le bazar. Hein. Vous connaissez un peu les détails, le veau d'or et tout ce qui s'ensuit. Il n'a pas été à la hauteur, vraiment. Et Aaron, pas du tout, lui. Donc, c'était la catastrophe. Terrible. Il venait de faire une alliance avec Dieu pour suivre Dieu, etc. Et à peine, Moïse avait le dos tourné, qu'ils ont tout cassé. Moïse redescend, il est effondré, bien sûr. Dieu l'avertit déjà là-haut et il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Il redescend. Et il dit, mais ça va être terrible ce qui va arriver, parce que Dieu est un Dieu juste. Alors Moïse va dire une chose. On a le texte. Merci. Moïse, il va retourner vers Dieu et va dire, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Il dit maintenant, Seigneur, pardonne leur péché. Pardonne leur péché. Mais il n'est pas sûr qu'il va le faire. Alors il dit, écoute Seigneur, je comprends que tu ne peux pas simplement pardonner, il faut que tu punisses le pécheur, tu es juste. Et là, ils ont fait un grave péché, donc ils doivent être punis. Donc si tu ne veux pas pardonner, je comprends. Alors si tu ne veux pas pardonner, voilà ce que je te propose. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse savait qu'il avait été, son nom était écrit, et ce que ça voulait dire. Donc Moïse dit à Dieu, il dit, écoute, si, je comprends que quelqu'un doit payer. C'est eux qui doivent payer, mais moi je propose de payer à leur place. Donc efface-moi, voilà la proposition que je te fais, efface-moi de leur livre, de ton livre, pardon. Et Dieu va lui dire, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis-le. Vous voyez ce que Dieu lui répond? Dieu lui dit, écoute, je ne vais pas les punir comme je devrais les punir. Je vais donc pardonner. Mais en même temps, je ne vais pas t'effacer de mon livre comme tu le demandes. Toi, tu conduis, tu vas vivre. Donc le peuple a vécu et Moïse a vécu. Et pourquoi est-ce que Dieu a pu faire cela? C'est parce qu'il savait que quelque temps plus tard, il y a quelqu'un de plus grand que Moïse qui allait venir. Et son nom à lui serait effacé. Parce qu'il fallait que le nom de quelqu'un soit effacé. Et Dieu a dit, ça ne sera pas celui de Moïse, ça sera celui de mon fils. Et c'est ce qui s'est passé quand Christ a été crucifié. Lorsqu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, son nom était effacé. Et c'est parce que ce nom est effacé que notre nom à nous peut être écrit. C'est ça l'Évangile. Et quand nous savons cela, nous avons le secret de la motivation que Dieu veut que nous ayons dans le service pour lui. Avoir une motivation, la motivation à partir de ce nom qui est écrit, c'est-à-dire du salut par la grâce, Ça va produire deux choses en nous. Ça va produire un esprit de bienveillance à l'égard des autres et un esprit de courage pour la mission que Dieu nous confie. Vous vous souvenez, dans le chapitre 9, je suis en train de trier parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais juste terminer là maintenant. Dans le chapitre 9, Jésus veut aller dans la région des Samaritains et il veut passer la nuit avec ses disciples. Et les disciples demandent si quelqu'un peut les héberger et puis personne ne le veut. Et quelle est la réponse des disciples, Jacques et Jean? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Seigneur, t'as vu comment ils nous reçoivent, ceux-là? T'as vu comment ils nous rejettent? Nous, les disciples de Christ, ils méritent qu'une seule chose, Seigneur. Si tu permets, alors seulement si tu permets, on ne le fera pas autrement, sinon on aurait du mal à le faire tout seul. Si tu permets, tu peux nous donner la puissance d'en haut, le feu du ciel, pour tous les consumer. Et le village va être rasé. Voilà. Terminé. On va tous passer ce monde-là au Karcher. Il n'y aura plus rien. Et Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il va leur dire? Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais c'est quoi votre motivation? Ben c'était la motivation que Jésus va relever après, lorsqu'il va dire, mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. La motivation qu'ils avaient, c'est de dire, écoute Seigneur, tu nous donnes une mission, tu nous donnes la puissance, et on va faire le boulot, on va faire le travail, et grâce à cela, on va avoir un nom. Mais Jésus leur dit, mais si vous faites comme ça, le jour où on va vous rejeter, vous allez détruire tout le monde. C'est pas ce qui se passe dans les religions qui deviennent radicales, extrémistes. C'est vrai pour l'islam aujourd'hui, mais ça a été vrai pour le christianisme. Pour les gens qui ont pensé et qui ont eu la motivation des disciples à ce moment-là. C'est de vouloir se faire un nom au travers de la religion. De se faire une image. Et quand on est comme cela et quelqu'un nous rejette, quelqu'un nous repousse, ben, on y va avec la force, la violence, la vengeance. Si nous savons que notre nom est écrit dans le livre de vie ou inscrit dans les cieux, que Dieu nous a acceptés tels que nous sommes par grâce, ça va produire en nous un esprit de bienveillance et nous donner un courage aussi face à l'opposition. Vous voyez la différence avec Paul quand il était pharisien? Il voulait se faire un nom, lui, au travers du pharisianisme. Il voulait exister. Et quand quelqu'un lui résistait, il le jetait en prison, il le tuait. C'était le cas pour les chrétiens. Et lorsque lui-même va devenir un chrétien, un disciple de Christ, et Christ va écrire son nom dans les cieux, jamais plus il va persécuter. Jamais plus. Il va être bienveillant. Et Dieu va lui donner le courage pour résister dans ces moments-là. Lorsqu'il va être emprisonné, lorsqu'il va être battu, presque mis à mort dans certaines circonstances, jamais il va répondre. Pourquoi? Parce que Paul n'avait pas besoin de se faire un nom. Il avait déjà un nom. Et son nom était déjà écrit. Vous voyez, si nous restons sur le cœur même de l'Évangile, qui est d'être reçu par grâce, pardonné par Dieu, et qu'on a déjà un nom, notre nom qui est écrit, ça va changer entièrement notre manière de faire. Mais vous voyez que ce n'est pas forcément le cas pour tous les disciples. Ce n'était pas le cas pour ceux-là, ce jour-là. Et c'est pour cela que Jésus les a prévenus et dit non. Ce n'est pas comme ça que vous allez faire les choses. Si vous ne comprenez pas que votre nom est écrit déjà, vous allez vous faire un nom. Vous allez tout faire pour vous faire un nom. Et là, vous allez détruire les autres. Vous allez aller dans l'extrémisme, dans le radicalisme religieux. Vous allez demander à Dieu de faire descendre le feu du ciel sur ceux qui s'opposent à vous. Vous allez avoir ce genre de comportement. Vous ne serez certainement pas bienveillant à l'égard des autres. Et vous n'aurez pas le courage de continuer, même lorsqu'il y aura la persécution. lorsqu'il y aura l'opposition? C'est la question que nous devons nous poser, frères et sœurs. Et on va terminer avec cela, en se posant à nous-mêmes cette question, et disant, Seigneur, mais je sais que je suis un disciple, et je sais qu'en tant que disciple, je suis un missionnaire. Maintenant, Seigneur, aide-moi à comprendre quelle est ma motivation. Dans quel esprit que je te sers, est-ce que je te sers? Je veux partir dans cette voie, accomplir cette mission en me rappelant que mon nom est déjà écrit. C'est passé. Je ne fais pas cela pour que mon nom soit un jour écrit, il est déjà écrit. C'est toi qui l'as inscrit. C'est toi qui m'as déjà accepté, Seigneur. Alors, je n'ai pas besoin, Seigneur, de te servir pour me faire un nom. Je peux le faire vraiment pour toi, Seigneur, dans l'esprit qui est le tien. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, dans notre rôle, dans notre mission, aux uns et aux autres, afin que nous puissions le faire avec la motivation que tu attends de chacun de nous. Je te prie pour cela, Seigneur. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, encore maintenant, en partageant ce repas de Sainte-Cène, nous allons nous souvenir qu'au travers de ce que tu as fait à la croix, tu l'as fait pour inscrire notre nom dans les cieux et que notre nom est aujourd'hui inscrit. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour cela, parce que cela va changer entièrement notre manière de te servir, notre manière de faire les choses. Garde-nous de nous-mêmes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.